Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dealmaker, le podcast juridique du Labo en partenariat avec le cabinet EY Venturi Avocat. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Eric Elabd, associé au sein du cabinet EY Venturi Avocat. Bonjour Eric.
Bonjour Soline.
Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter ?
Bien, écoute, avec plaisir. Donc, je m'appelle Eric Elabd. Je co-dirige un cabinet qui s'appelle EY Venturi Avocat, comme tu l'as souligné. Et plus particulièrement, je supervise la partie propriété intellectuelle contrat, ce qui nous amène à accompagner nos clients dans toutes les étapes clés de structuration de leurs relations contractuelles et de sécurisation de leurs actifs immatériels, que ce soit au moment de la constitution de la technologie, de la structuration de cette technologie au sein du projet, ou dans le cadre des négociations des accords commerciaux qu'elles peuvent mener autour de cette technologie. Et donc, c'est un petit peu ce qui va nous amener à échanger aujourd'hui, je crois.
Tout à fait, c'est très clair, merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, le podcast porte sur la négociation avec les grands comptes, sujet assez récurrent et qui pose beaucoup de questions pour les startups et les porteurs de projets qui doivent nous écouter. Est-ce que déjà, on pourrait expliquer peut-être ce qu'est un grand compte et pourquoi on en parle spécifiquement finalement ? Pourquoi c'est un sujet ?
Alors, on le sait tous, c'est une expression qui est relativement galvaudée. Mais en réalité, quand on évoque le terme grand compte, on a toujours l'impression qu'on parle d'une grande compagnie, d'une multinationale. Moi, j'ai plutôt coutume de dire que finalement, ce grand compte, on va le considérer plutôt comme un faiseur ou un acteur de référence sur un marché. Acteur de référence sur un marché pour une technologie ou un scope technologique dans lequel on a envie de se positionner ou dans lequel notre startup est elle-même positionnée. Et on l'imagine comme étant en fait un acteur incontournable. C'est un petit peu ça finalement qu'on va rechercher à travers l'expression du grand compte. Et à l'image du grand méchant loup, finalement, on lui donne un certain nombre de caractères et de caractéristiques. Certaines sont fausses, certaines sont des idées reçues, mais d'autres sont vérifiables ou vérifiées. C'est pour cette raison, en réalité, qu'on a besoin d'aborder une relation avec ce type d'acteur de manière assez particulière, afin d'éviter de tomber dans certains écueils, et ils sont nombreux, mais aussi, finalement, afin de tout mettre en œuvre pour favoriser le succès de cette opération. Succès qui a des incidences et des résonances multiples pour un projet comme celui que nos porteurs mettent en œuvre et développent au fil des années.
Ça peut faire un peu peur, finalement, ce terme de grand compte et notamment de négociation au vu des timings imposés, notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, à partir de quand on doit initier une relation avec un grand compte ?
La réponse est à géométrie variable. En réalité, je pense que la bonne approche, c'est plutôt de partir d'une première étape que j'aime appeler l'auto-évaluation. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement le fait de dire qu'il n'y a pas un grand compte finalement si incontournable que ça. Il y a le bon grand compte au bon moment. Et donc, une start-up, avant d'aborder une relation avec un industriel de référence de son secteur, doit se poser un certain nombre de questions. Et cet auto-diagnostic est fondamental parce qu'on a pu observer que nombre d'échecs dans les contrats noués avec des grands comptes sont finalement d'abord des échecs qui partent d'une première erreur d'appréciation, c'est-à-dire la capacité à s'interfacer avec ce grand compte. Et donc, les trois questions fondamentales qu'il faut être capable de se poser avant même d'aborder une relation avec un industriel sont complètement internes, en fait. C'est une introspection totale. La première question, c'est essayer d'analyser son propre niveau de maturité technique et technologique. La deuxième question, c'est envisager la maturité commerciale de la startup en question. Et en fonction de ces deux premières questions, on va commencer déjà à en aborder une troisième, c'est quelle est la maturité du marché auquel on a envie de s'adresser. Et déjà, ces trois premières questions vont nous permettre de déterminer si on est prêt à aborder un grand compte, c'est-à-dire si on est prêt à s'interfacer techniquement ou si on est prêt commercialement à envisager une offre commune ou adressée à ce grand compte, et enfin si le marché est capable de recevoir cette offre assez rapidement. Parce que ce qui est complètement rédhibitoire pour un grand industriel, c'est d'être trop dans la prospective, Ce qui est complètement rédhibitoire, c'est s'il y a trop de travail technique pour interfacer les deux technologies, celle de l'industriel et la vôtre. Et ce qui est encore plus compliqué, mais cette fois-ci du côté de la start-up, c'est s'il commence à y avoir des débats interminables sur un modèle économique qui n'aurait pas été déjà anticipé côté start-up. Donc de fait, la première chose à faire, c'est déjà de se poser ces bonnes questions.
Juste pour rebondir, ce que tu dis, c'est que finalement, il y a pas mal de startups qui vont peut-être trop tôt. Si tu parles de cette auto-évaluation à faire, c'est que tu as pu remarquer qu'il y a des débats qui sont trop longs parce que ça n'a pas été fait et donc on toque à la porte trop tôt finalement.
Alors, c'est pas vraiment et c'est pas uniquement trop tôt, c'est que ça peut être trop tôt pour un type d'industriel,
ouais.
Mais le bon moment pour un autre. Parce que justement, ce que je voulais évoquer juste après, c'est qu'une fois qu'on a fait cette évaluation, on va être capable de regarder l'écosystème de nos industriels et de déterminer par rapport à notre avancée technique commerciale ou l'avancée du marché, celui qui sera peut-être le plus à même de compléter cette phase particulière de notre projet et donc de correspondre. Parce qu'on a trop tendance à imaginer qu'on est la partie faible parce qu'on est une start-up, on est effectivement économiquement faible, mais en réalité, il faut qu'on screen notre écosystème de la même manière que notre écosystème nous screen, et c'est le cas pour les industriels auxquels on a envie de s'adresser. Il y a des industriels qui sont très techno et qui sont capables finalement de faire la passerelle technique avec des startups dont la maturité n'est pas encore très avancée au niveau de technologie. Et il y a des industriels pour lesquels ceci est complètement rédhibitoire. Donc il faut être capable de trier en fait parmi ces industriels pour trouver le bon et faire un bout de chemin avec lui. Et ce bout de chemin, si on est peu avancé d'un point de vue technique, va finalement se concrétiser par un POC plutôt, afin de commencer à essayer de voir s'il y a une appétence technique, mais aussi un marché. Un POC, c'est une preuve de concept. C'est l'établissement d'une relation en vue de déterminer une faisabilité ou une preuve de concept avant de partir sur un déploiement à grande échelle. Et ça peut être en tant que tel un objectif en réalité dans la relation. La deuxième tendance va être finalement de se poser encore une fois une deuxième question qui est très importante, c'est qu'une fois que j'ai trouvé mon industriel ou mes industriels qui pourraient, fitter, je vais essayer de regarder quelle est leur réputation sur le marché. Oui. On sait qu'il y a des industriels qui ont une attitude plus prédatrice que d'autres. On sait que certains ont tendance à essayer de verrouiller les projets avec lesquels ils peuvent s'interfaser. On sait qu'une autre catégorie d'industriels va être plus dans la dynamique d'open innovation. Et en fonction de ça, je pense qu'il est fondamental de screener l'écosystème là-dessus aussi, afin de ne pas partir dans des phases interminables, parce que c'est assez long de négocier avec les grands comptes, et risqué en plus.
Donc ce que tu dis finalement, c'est que c'est important de prendre le temps de regarder tous ces points, de faire une sorte d'audit et interne et externe avant d'initier des premiers échanges et potentiellement une première négociation. Parce qu'effectivement, on parle de négociation dans ce podcast, donc on comprend que c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps. Est-ce que tu peux nous rappeler les étapes clés en général de ces négociations avec les grands comptes?
Oui, bien sûr. On constate, alors l'idée là, c'est d'évoquer plutôt les tendances par rapport à ce qui s'observe.
Oui, chaque négociation est différente, j'imagine.
Alors non seulement chaque négociation est différente, mais en plus de ça, il peut y avoir des spécificités à chaque typologie d'industrie. Mais de manière générale, ce qu'on observe, c'est que les premiers contacts se nouent au niveau technique, éventuellement au niveau business. Donc on a une rencontre de technicien à technicien dans 70% des cas, d'après ce qu'on a pu observer. Parfois, on va avoir un business developer côté startup ou d'ailleurs côté grand compte qui va être à la recherche de technologie et ce qui va permettre de faire la première passerelle et donc d'avoir les premiers échanges. Ce qu'on constate ensuite, c'est que il y a une tendance assez marquée qui va pousser la startup à dévoiler un minimum de techno, un minimum de savoir-faire et une projection business avant même de commencer à déverrouiller les tenants et les aboutissants de l'éventuelle relation. Et donc c'est une première étape dans laquelle il faut être assez précautionneux. Et ensuite vont se succéder des services et des interlocuteurs au sein de ces services côté grand compte qui vont forcément complexifier un petit peu les discussions et les échanges. On appelle ça généralement les rideaux. Donc on va avoir, une fois qu'on a eu le technicien et un petit peu le business, on va généralement avoir le rideau des achats et ensuite le rideau juridique. Parfois ils arrivent ensemble.
C'est rigolo comme nom.
Parce qu'ils se succèdent véritablement sur la chaîne de négociation. Et ce qui est certain, c'est que le bon réflexe et la bonne attitude, c'est déjà d'encadrer les premières discussions. Donc, il faut veiller à ce que, à bien encadrer les premiers échanges par la confidentialité la plus absolue et faire en sorte que les accords de confidentialité qui vont être noués avec l'industriel en question soient bel et bien des accords de confidentialité bilatéraux, qu'ils soient adaptés à la protection des informations spécifiques de la start-up, c'est-à-dire la typologie d'informations, mais également qu'ils n'entraînent pas de translation de propriété de la start-up au profit de l'industriel sous le couvert de l'éventuel échange d'informations, ce qui peut s'observer dans certains types de NDA. Il faut également avoir une démarche assez pragmatique côté start-up, parce qu'en réalité, on va discuter avec quelqu'un qui va donc matérialiser ces échanges par toute une série d'interlocuteurs, les fameux rideaux dont on parlait juste avant, mais qui va lui-même être victime de sa propre inertie. Et en réalité, la première chose stratégique dans une négociation avec un industriel, c'est d'identifier la personne clé dans nos interlocuteurs. Généralement, ça va être une personne technique ou une personne business, et se servir de cette personne comme d'un promoteur, en fait. Parce qu'on a besoin en interne d'un promoteur qui va relayer l'intérêt de collaborer avec, avec nous, qui va évangéliser au sein du grand compte pour qu'un accueil favorable à la techno et au partenariat soit véritablement aménagé, et qui va être capable ensuite d'essayer de vous accompagner pour déverrouiller un certain nombre de points, et notamment certains aspects liés à l'inertie ou à une politique assez prédatrice de votre interlocuteur. Ça, c'est très important. Et le timing côté startup est une question de survie. La réalité côté grand compte, c'est qu'en réalité, ça n'avance que très, très, très lentement.
C'est dit diplomatiquement, parce que j'ai l'impression que c'est vrai que c'est un des écueils aussi, et c'est pour ça qu'on en parle si souvent, finalement, que startup et grand compte n'ont pas le même timing. Est-ce que tu as des ordres de grandeur en général pour que nos amis start-upers qui nous écoutent ou les porteurs de projets qui sont présents aient un peu une idée finalement de ces négociations? Je me doute que c'est très différent en fonction des acteurs et des domaines, mais aurais-tu une fourchette à nous communiquer?
Oui, bien évidemment. Alors, je rappelle juste un point, c'est qu'il y a ce sujet de maturité technique, maturité business, qui va forcément avoir une incidence sur le timing. Le second point, va résider finalement dans l'urgence et la maturité du marché, ce qui peut être un facteur d'accélération. Mais de manière générale, on observe que les discussions durent rarement moins de 6 à 9 mois pour construire quelque chose de cohérent. Et quand on se contente éventuellement de viser un POC, on peut envisager de fermer la discussion et d'avoir un petit POC au bout de 6 mois. Quand on est sur un contrat de déploiement un peu plus important, il n'est pas rare d'observer des discussions pendant plus de 12 mois. Or, vous le savez, en tant que startup, on a besoin de fuel. Le fuel, c'est l'argent. Et donc, il arrive que malheureusement, on se perde un petit peu dans les méandres de ces discussions et qu'à un moment donné, on ait véritablement des problèmes de trésorerie. Ce qui peut, finalement, relativiser l'intérêt d'échanger avec ce type d'acteur. C'est pourquoi on a tendance à conseiller nos startups de procéder par étapes. C'est-à-dire, on a le NDA qui va encadrer les premiers échanges. On va essayer d'observer le timing, et en fonction du timing, on va essayer de boucler une étape intermédiaire d'un point de vue documentaire. Ça peut être une LOI, donc une lettre d'intention. Ça peut être un protocole d'accord qui va permettre d'attester qu'on est d'accord sur tel et tel aspect de la future collaboration, mais qu'il reste tel et tel autres aspects à déverrouiller. Et on se donne un timing pour les déverrouiller, ce qui va montrer et ce qui va imposer un petit peu de dynamisme. Mais surtout, ce qui va nous servir de signature. Parce que ce qui est intéressant dans un effet startup grand compte, c'est finalement de l'utiliser d'un point de vue marketing et de l'utiliser notamment vis-à-vis de nos amis investisseurs pour valoriser un intérêt, pour valoriser une appétence sur la technologie portée, et donc pour essayer d'intercaler des process de levée de fonds dans le cadre des discussions et, avec l'industriel, et même en capitalisant sur ces discussions. Et ça, c'est très important.
Ce que tu dis, c'est que les investisseurs, finalement, sur la base de documents de travail, peuvent être amenés à fournir du fuel, comme tu le dis, à la start-up qui est en cours de négociation.
Et oui, il arrive assez régulièrement, finalement, que les investisseurs soient séduits par une techno, soient séduits par un projet, mais qu'il manque un petit peu de preuves d'intérêt. Et quand ils voient de belles signatures, ils se disent assez instinctivement, et j'ai envie de dire assez naturellement, que c'est clairement un projet pour lequel ils ne sont pas les seuls à manifester de l'intérêt. Et donc, ça peut rassurer. un investisseur que de voir des signatures, non pas de documents de travail, attention, de pré-accord et d'avant-contrat qui sont structurants dans le cadre des discussions, et notamment quand ces discussions sont longues, ça évite les retours en arrière. À ceci près, qu'il faut que ces documents ne soient pas non plus complètement unilatéraux et qu'ils ne soient pas au détriment de la start-up. Je pense notamment à des documents qui feraient état d'une exclusivité monstrueusement large, d'une exclusivité sans contrepartie financière, ou qui feraient état d'une captation technologique au bénéfice de l'industriel. Là, on se tirerait véritablement et littéralement une balle dans le pied, puisque l'effet vertueux de l'accord se retournerait contre nous. L'effet vertueux, pardon, de la signature, excusez-moi.
Ce que tu dis, c'est que de toute façon, il y a des choses très importantes à négocier. Peut-être qu'on peut y venir dans le cœur de la négociation, maintenant qu'on a compris un peu le cadre, un peu la durée et ce qu'on va pouvoir demander finalement à notre interlocuteur. Quels sont les points de vigilance auxquels les startups doivent penser, ou porteurs de projets d'ailleurs, doivent penser lorsqu'ils négocient avec ce type d'acteurs ?
Bien écoutez, il y en a un tas en réalité, parce que ça va dépendre du modèle.
Alors les sélectionner, les principaux, vu qu'on n'a pas le temps de tout descendre.
on va centrer notre discussion autour de deux points fondamentaux. Le premier, ça va être l'exclusivité, et le deuxième, la propriété. Dans la plupart, voire toutes les discussions avec les industriels, se pose très rapidement un sujet qui est celui de l'exclusivité. L'industriel qui va essayer de vous accompagner, en tout cas qui va faire valoir le fait que il est une belle signature et qu'il est un facteur d'accélération, ce qui, on en a parlé, n'est pas toujours vrai, va forcément monétiser sa signature par un minimum une exclusivité. Il va essayer d'obtenir d'ailleurs l'exclusivité la plus large possible et la plus longue possible. Et en réalité, l'exclusivité, il faut véritablement l'analyser et non pas la rejeter en bloc ou au contraire. Et il ne faut pas non plus la signer comme si on signait un blanc-seing. Il faut plutôt la rationaliser par rapport à notre projection de business, d'où l'importance des facteurs de projection de marché. Une exclusivité n'est pas un problème en soi. À partir du moment où elle est circonscrite sur des domaines spécifiques, qu'elle est temporellement encadrée et qu'elle est assortie de contreparties financières. Je n'ai aucun problème à accepter dans le cadre de négociation une exclusivité qui peut être que sur un an, qui est la juste récompense d'un investissement financier d'un industriel qui a cru en un projet early stage, sous réserve que cette exclusivité, je puisse ensuite la remettre en question, parce que on n'aura pas déployé finalement suffisamment, parce qu'il n'y aura pas de retour sur investissement, etc., etc., etc. Donc l'exclusivité, c'est le premier sujet, et c'est un sujet à géométrie variable. Le deuxième sujet, qui arrive assez régulièrement, c'est un sujet de propriété, comme je le disais juste avant. Pourquoi ? Parce que les premières relations avec un industriel vont souvent occasionner des ajustements techniques, des interfaçages, des co-développements, etc. Et c'est souvent l'occasion pour l'industriel d'essayer de demander, de négocier ou d'obtenir une copropriété sur la technologie ainsi adaptée, voire même parfois par effet de contamination, une copropriété sur la technologie d'origine. Et donc, il est très important de veiller, cette fois-ci, à préserver l'outil et l'actif principal de la start-up, parce que c'est finalement par ce biais-là qu'on préserve aussi sa liberté. Et c'est votre indépendance et votre liberté qui fera de vous un projet successful et qui fera de vous un projet à haute valeur ajoutée.
Peut-être qu'on peut finir ce podcast, sauf si tu veux bien sûr compléter avec des points dont on n'a pas encore parlé jusque-là, mais sinon on peut peut-être finir cette séance sur la négociation avec les grands comptes par quelques conseils que toi, en tant qu'avocat, tu trouverais nécessaire à appliquer lors de chaque négociation, que ce soit en termes de points clés, tu viens d'en parler, ou même de comportements à adopter lors de cette négociation.
La première chose, c'est véritablement d'être droit dans ses bottes et d'avoir confiance en son projet et de pas considérer que parce qu'on est une petite start-up, on est forcément en situation de faiblesse face à l'industriel. Si l'industriel vous parle, c'est parce qu'il a besoin de vous, parce qu'il a besoin d'accélérer et parce qu'il sait très bien qu'il ne saura pas le faire sans vous. Et donc là-dessus, il faut éviter les complexes d'infériorité. Il faut au contraire se positionner comme une entreprise à part entière et un acteur à part entière de ce futur ou de ce futur marché ou du marché que vous voulez aborder.
Au final, une question d'attitude, en fait, ce que tu dis. Enfin, vraiment avoir une attitude.
Une question d'attitude et une question de confiance. La deuxième chose, et qui est tout aussi importante, c'est d'éviter de croire que la relation avec cet industriel-là sera l'Eldorado ou qu'elle constituerait une fin en soi. En réalité, la plupart du temps, et ce qu'on a observé, c'est que ce ne sont pas ces relations en tant que telles qui ont permis aux startups de se développer le plus possible. En réalité, elles ont servi à la maturation de la startup et à la compréhension de son écosystème, plus qu'au chiffre d'affaires en question. Et donc, dans je ne sais pas combien de cas, les relations startup grand compte qui ont été nouées et qu'on a pu accompagner n'ont pas forcément en tant que telles généré le cash espéré ou généré les perspectives de marché espérées. Elles ont en revanche permis à la startup de grandir, de mieux comprendre et d'évoluer. Et c'est en cela qu'elles sont importantes, ces relations, pas forcément d'ailleurs sous l'angle qu'on imaginait a priori. Donc ça, c'est vraiment important. La troisième chose, c'est véritablement vous poser la première question qui est quel est mon intérêt à court, moyen et long terme. Et ça, c'est une question que vous devez toujours avoir en tête et qui doit toujours vous accompagner au fil des discussions, parce qu'il faut être capable à un moment donné de prendre un tout petit peu de recul et de regarder si la relation que vous êtes en train de négocier vous amène finalement dans ces objectifs court, moyen et long terme. Et il faut regarder ça avec beaucoup de lucidité, parce qu'on est parfois pris la tête dans le guidon et on se dit que ça fait déjà 6 ou 8 mois qu'on a commencé à négocier, il faut qu'on finisse, il faut qu'on obtienne quelque chose, et parfois on a l'impression que nos clients veulent l'obtenir au bout d'un moment à tout prix, alors que c'est pas la bonne attitude.
Ok, super, un grand merci pour tous ces conseils, on espère que ça aura éclairé nos auditeurs. Merci beaucoup Eric, et à bientôt.
Merci Soline, à très bientôt.